Le dévoilement de Dieu numéro 98. Les deux vignes. Toutes les deux reçoivent une marque sur le front et sur la main. Le 2 juin 2019, service du matin. Brian Kozurek, pasteur. Ce matin, nous conclurons notre étude des attributs partagés que la vraie vigne et la fausse vigne ont en commun, à savoir qu'ils sont tous les deux engendrés par le même réveil, la même pluie, la même doctrine, le même mouvement de Dieu, dans son sermon L'âge de l'Église d'Éphèse 5 décembre 73, frère Branham nous dit que même ce réveil de Dieu en ce temps de la fin, ce message du temps de la fin engendrera également des jumeaux. 113. Eh bien, comme je le disais au début, avant que nous n'ayons reprenions ceci, tout réveil produit des jumeaux. L'un est un homme spirituel, l'autre, un homme naturel, un homme de la terre. J'ai adhéré à l'Église, je suis aussi bon que n'importe qui. Et c'est ce que ce réveil a produit. C'est ce que tout réveil. C'est ce que le réveil de Luther a produit. C'est ce que le réveil d'Irénée a produit. C'est ce que le réveil de Saint-Martin a produit. C'est ce que le réveil de Colomba a produit. C'est ce que le réveil de Wesley a produit. Et c'est ce que la Pentecôte a produit. C'est cela. Exactement cela. 114. Voyez-vous comment ils se sont relâchés? Comme que vous le savez bien maintenant, chaque réveil vient par un mouvement de Dieu sur base de sa parole. Et la parole sort comme une doctrine. Le réveil de l'époque de Martin Luther et son message était la doctrine de la justification. Le réveil de l'époque de John Wesley et son message était la doctrine de la sanctification. Le réveil de l'époque de William Branham et son message déclarait la doctrine de Christ et comprenait que la présence de Christ était ici. Il dit dans son sermon, dès ce moment 23 juillet 62-225, combien savent qu'il y a une différence entre l'apparition de Christ et la venue de Christ? Ce sont deux mots différents. Maintenant, si Esther l'apparition, la venue sera pour bientôt. Il apparaît au milieu de nous, accomplissant dans son Église les œuvres qu'il a autrefois faites. Maintenant, vous êtes une partie de cette Église, et par la grâce vous croyez. Je suis un membre de cette Église. 226. Eh bien, je n'y suis pas un prédicateur. Vous savez que je n'y le suis pas. Je n'ai pas d'instruction pour l'être. Parfois, j'hésite de me tenir ici près des hommes de Dieu qui sont appelés pour cet office. Il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs, tous ne sont pas évangélistes. Je me tiens ici. 227. Même mon ministère est différent de celui d'un pasteur ou d'un docteur. Je suis. Je n'ai mais le suis pas. Et si je dis mal à qui les choses, frère, pardonnez-moi. Ce n'est pas mon intention. Mais voici mon ministère, voyez? C'est Esther de déclarer qu'il est ici. Or il est essentiel que chaque chrétien qui croit en la venue du Seigneur et en l'enlèvement de l'Église comprenne qu'il y a d'abord une apparition du Seigneur, et rappelez-vous qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Paul dit dans Éphésiens 4.5 qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, ça. C'est le baptême du Saint-Esprit. Puis dans 1 Thessaloniciens 4 l'apôtre Paul nous dit au verset 16 « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, cri de commandement, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et il nous dit même au verset 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Maintenant, c'est Esther frère Branham qui a dit, « Mais voici mon ministère, voyez ?» C'est Esther de déclarer qu'il y a Esther ici. Il nous dit également que la descente du Seigneur de 1 Thessaloniciens 4 doit amener avec sa présence le cri, qui Esther le message. Ensuite la voix qui Esther la résurrection et la trompette qui sera l'enlèvement de l'épouse, pour aller à la rencontre du Fils de Dieu dans les airs. Il dit dans son sermon l'enlèvement Psalm 4 décembre 65 qu'il a prêché juste avant que Dieu l'emmène à la maison. Son ministère était terminé. Or remarquez qu'il explique ce que sont le cri, la voix et la trompette, ensuite il relie cela à Matthieu 25. La parabole des 10 vierges. L'enlèvement Psalm 4 décembre 65, 141 il a ordonné que ces choses soient. Maintenant, il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu'il commence à descendre du ciel, Esther un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est Esther un message pour rassembler les gens. Un message Esther proclamé premièrement. Eh bien, c'est Esther le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? La septième? Pas la sixième? La septième. Voici. L'époux vient. Levez-vous et préparez vos lampes. Et elles le firent. Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leurs lampes. Voyez-vous? Mais c'était le moment de préparer les lampes. C'était le temps de Malachi 4. Lorsqu'on en arrive. C'était Luc 17. C'était saille. Toutes ces prophéties. Afin que cela puisse. C'était parfaitement déclaré dans les Écritures. Ce qui se rapporte à ce jour. Nous le voyons se dérouler ici même. Maintenant, pourquoi a-t-il cité le nom d'Esaïe? On nous dit dans Esaïe que les gens verront Ménéhémie, percevront pas et entendront Ménéhémie, comprendront pas. Esaïe 6.9 il dit alors, va, et dis à ce peuple, vous entendrez, et vous Ménéhémie comprendrez point, vous verrez, et vous Ménéhémie saisirez point. À nouveau, dans son sermon l'enlèvement Psalm 4 décembre 65 frère Branham explique, 133 choses arrivent avant que Jésus apparaisse, une voix, un cri de commandement, un cri, une trompette doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces trois choses, pendant qu'il descend. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est Esther le message, qui Esther proclamait en premier, le pain de vie vivant, manifestant l'épouse. 131 Dieu a une manière de faire les choses, et il n'aime et change jamais son principe. Il n'aime et change jamais son. Il est Esther le Dieu qui n'aime et change pas. Dans Amos 3.7, il dit qu'une Néhémie fera rien sur la terre sans l'avoir premièrement révélé à ses serviteurs, les prophètes. Et aussi sûrement qu'il l'a promis, il le fera. D'accord? Alors ici il nous dit que ce sera Dieu qui descend avec un message, mais il utilisera un prophète pour déclarer son message selon Amos 3.7. Et que doit faire ce message? Il nous dit plus loin dans l'enlèvement Psalm 4 décembre 65, 164 Esther pourquoi le message appelle l'épouse à se rassembler. Voyez-vous? Le cri de commandement et la trompette. Ce même matin, il cria d'une voix forte et cette voix réveilla Lazare. D'une voix forte, il cria, Lazare, sors. Voyez-vous? Et la voix réveilla l'épouse endormie, ceux qui sont morts. 165 Et la trompette, au son de la trompette, lorsqu'elle sonne, elle appelle. Une trompette a toujours appelé Israël à la fête des trompettes. Voyez-vous, ce qui était la fête de Pentecôte, la grande fête dans le ciel, et la fête des trompettes. Une trompette annonce un rassemblement, Sester, un appel à la fête. Et maintenant, Sester, pour le souper de l'agneau dans le ciel, maintenant observez le rassemblement de l'épouse, la fête des trompettes, le souper des noces. Nous avons vu cela sous forme de type. Maintenant suivez un moment, avant que nous terminions. Nous voyons donc que frère Branham Esther très définitif à propos de ce que sont ces trois choses, nous dit Paul, que le Seigneur fait lors de sa descente, et présence consécutive, l'enlèvement Psalm 4 décembre 6553 qu'elle Esther la chose suivante, c'était une trompette, une voix, un cri de commandement, une voix, une trompette. La troisième chose Esther, une trompette, qui, chaque fois lors de la fête des trompettes, appelle les gens à la fête, et ça sera le souper de l'épouse, le souper de l'agneau avec l'épouse dans le ciel. Voyez, 154, la première chose qui arrive, c'est Esther, son message qui convoque l'épouse. La chose suivante, c'est Esther, la résurrection de l'épouse qui dort, celle qui mourut dans les autres âges. Ils sont enlevés ensemble, et la trompette, la fête dans les cieux au ciel. Eh bien, c'est Esther ce qui arrive, mes amis. 155, nous sommes là près maintenant. La seule chose que l'Église qui sort, doit encore faire, c'est Esther de rester au soleil pour mûrir. La grande moissonneuse viendra dans peu de temps. Le blé sera brûlé, les tiges, mais le grain sera rassemblé dans le grenier. Voyez-vous? Il est Esther donc plus tard que vous n'avez mis le penser, et si vous revenez à mon sermon dans la série sur la foi numéro 38 et 39, vous verrez une étude définitive de toutes les promesses de Dieu associées à la présence de Dieu en cette heure, et toutes les choses qu'il fait durant le temps du cri, de la voix et de la trompette. Et dans la foi numéro 39, je vous ai montré des preuves spécifiques que 79 des 84 événements, signes et caractéristiques qui sont prophétisés de s'accomplir durant ce temps, se sont déjà accomplis. Je vous défie de retourner étudier ces deux sermons. Quand vous voyagez, vous vous procurez une carte routière, feuille de route, pour votre voyage. Et pourtant, mes frères et sœurs, nous sommes sur le point de partir pour un voyage que personne n'a jamais fait auparavant et je vous ai présenté la carte routière, feuille de route, pour que vous l'étudiez à chaque fois que vous en avez l'occasion. Frère Branham nous a dit, de la parabole des 10 vierges, qu'ils ont tous entendu le cri de minuit. Ainsi, la doctrine des jumeaux en cette heure implique une compréhension des deux vignes de comment, soit elles entendent, reconnaissent et agissent sur ce cri de minuit, ce cri qu'il dit être le message, soit nous voyons dans cette parabole ceux qui ont entendu le cri de minuit, le cri, le message qu'il Esther ici, sortait à sa rencontre, mais d'une façon ou d'une autre, ils n'aiment et comprennent pas ce qu'Esther le message. Maintenant, souvenez-vous, les vierges folles étaient inexcusables. Elles ont été réveillées de leur sommeil par le cri de minuit, le cri qui Esther le message, tout comme les vierges sages. Mais elles n'ont pas compris en quoi consistait ce cri. C'était sorti à sa rencontre. Il est Esther donc question de lui. Et frère Branham dit lui-même dans son sermon, dès ce moment 23 juillet 62-225 combien savent qu'il y a une différence entre l'apparition de Christ et la venue de Christ? Ce sont deux mots différents. Maintenant, c'est Esther l'apparition, la venue sera pour bientôt. Il apparaît au milieu de nous, c'est Esther Matthieu 25, accomplissant dans son église les œuvres qu'il a autrefois faites. C'est Esther comprendre que l'alpha doit se répéter dans l'oméga. Maintenant, vous êtes une partie de cette église, et par la grâce vous croyez. Je suis un membre de cette église. 226 est bien. Je n'ai mis suis pas un prédicateur. Vous savez que je n'ai mis le suis pas. Je n'ai pas d'instruction pour l'être. Parfois, j'hésite de me tenir ici près des hommes de Dieu qui sont appelés pour cet office. Il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Tous Néhémie sont pas apôtres, tous Néhémie sont pas prophètes, tous Néhémie sont pas docteurs, tous Néhémie sont pas évangélistes. Je me tiens ici. 227 Mais mon ministère est différent de celui d'un pasteur ou d'un docteur. Je Néhémie le suis pas. Et si je dis mal à qui les choses, frère, pardonnez-moi. Ce n'est pas mon intention. Mais voici mon ministère, voyez, c'est le déclarer, qu'il est ici. Remarquez, il nous dit qu'il n'est pas un quintuple ministre. Il dit, mon ministère est différent de celui d'un pasteur ou d'un docteur. Ainsi lorsque nous entendons les gens dire que William Branham était tous les quintuples ministères, ses propres paroles nous disent qu'il Néhémie l'était pas. Dieu Néhémie lui a jamais dit qu'il était un évangéliste. Il lui a seulement dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. Faire les œuvres de Christ. Néhémie fait pas de vous Christ. Ni de faire les œuvres d'un évangéliste. Néhémie fait de vous un évangéliste. Un véritable quintuple ministère est né pour cet office. Et frère Branham n'est pas né pour être un quintuple ministre. Il est né pour être un messager prophète. Dans questions et réponses sur les Sodimes 24 mars 63 et mon apostille. Question est frère Branham, 232, 22. Ce que l'épouse de Christ aura? Ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? 233 bien sûr. Ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous voyez? L'épouse de Christ. Certainement. C'est le message de l'heure, vous voyez? L'épouse de Christ. Bien sûr. Elle est constituée d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes et de pasteurs. N'est-ce pas vrai? C'est l'épouse de Christ. Bien sûr. Elle a un ministère. Un grand ministère. C'est le ministère de l'heure. Il sera tellement humble. Mais ce n'est pas ce qu'il nous a dit qu'était son ministère. Il a dit, mais voyez. Voici mon ministère, voyez. C'est le déclarer. Qu'il est ici. Mais combien de personnes qui déclare croire que William Branham était le prophète de Dieu du temps de la fin pour cet âge, savent cela, comprennent cela. Et lorsque le cri de minuit s'estère fait entendre dans Matthieu 25, qui était, voici, il est ici, sortait à sa rencontre, c'est la même chose que le cri de 1 Thessaloniciens 4, qui devait déclarer la présence du Seigneur, qui était descendu avec un cri. Voici, je suis ici. Ma présence est ici. C'est la même personne qui se tient à la porte de l'église de Laodicée criant, voici, je suis à la porte, dehors, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, nous mangerons ensemble, dînerons ensemble. Et c'est la même voix dans Jacques 5 qui dit, voici le juge Esther à la porte. Et c'est en cela que consiste le ministère de William Branham, le prophète confirmé de Dieu à cet âge de l'église de Laodicée, sortez. Il est ici. Mais combien de soi-disant croyants du message ont entendu le cri de minuit? Et ont compris de quoi il s'agit? Ils ont assez compris pour sortir. Mais n'ont pas bien compris où il a dit le but de votre sortie. C'est parce qu'il est ici. Alors lorsqu'ils sont sortis de l'église, s'ils avaient compris la partie du cri de minuit, il est ici, ils n'auraient pas couru chez ceux qui vendent de l'huile pour en acheter. Ils seraient restés dans la présence de celui qui est ici. Mais le fait qu'ils ont couru derrière celui qui vend de l'huile, montrait qu'il n'aimait, comprenait pas qu'il était là. Il n'aimait, savait pas cela. Or la différence Esther que la vraie vigne avait de l'huile, qui Esther le Saint-Esprit, et donc ils ont non seulement entendu le cri de minuit, mais ils ont également reconnu de quoi il s'agissait. Il s'agit de celui qui Esther ici, et la preuve qu'ils ont reconnu ce qu'ils ont entendu, c'est Esther qu'ils ont agi sur la parole de Dieu, et sont entrés avec celui qui Esther ici. Mais nous voyons les vierges folles, la fausse vigne, n'a pas entendu et reconnu, sinon elle serait restée dans la présence de celui qui Esther descendu. Et par conséquent, lorsqu'on leur a dit d'aller acheter de l'huile pour eux-mêmes, elles ont quitté la présence de celui qui se tenait dehors devant la porte. Or ceux qui vendaient étaient ceux qui vendent la parole, car c'est Esther là où se trouve l'huile. Jésus a dit, « Mes paroles sont esprit et vie. » Et ces gens ont couru chez ceux qui vendent la parole cherchant à obtenir le Saint-Esprit, mais ils devaient quitter la parousia présence de celui qui Esther descendu pour ce faire. Et la Bible dit qu'ils étaient restés. Matthieu 25.10 Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrèrent, avec lui dans la salle des noces. Et la porte, Christ la parole. Il dit qu'il était à la porte, fut fermée. 11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ouvre quoi? Ouvre-nous la porte. La parole. 12 Mille et répondit, je vous le dis en vérité. Je n'ai vous connais pas. 13 Veillez donc, puisque vous n'ayez savez ni le jour, ni l'heure. Or le docteur Royer, qui était le meilleur érudit en grec des États-Unis dans les années 50 et 60, a déclaré que l'original dit, avant, je te connaissais comme ma femme, mais maintenant, je n'ai te connais plus ainsi. Et il disait que c'était le grand divorce. Et remarquez, ce n'est pas à l'église dénominationnelle que vient ce divorce, c'est Esther à la vierge folle, qui Esther allait chez ceux qui vendent et a ainsi quitté la présence de l'époux. Nous voyons donc l'importance de connaître et de reconnaître votre jour et votre visitation de Dieu avec le cri de minuit ou ce message, voici l'Esther ici, sortez à sa rencontre. Maintenant, cela nous conduit au dernier des attributs partagés, et c'est Esther le numéro 10, à la fois, la vraie vigne et la fausse vigne recevront une marque dans le front et dans la main droite. Maintenant, pour le reste de ce sermon, ce matin, nous allons couvrir ce que ces marques représentent. Pour commencer, nous retournerons dans le livre de la Genèse pour voir la marque de la bête, qu'il a reçue, pourquoi il l'a reçue, et quel était le résultat de l'avoir reçu. Genèse 4.3 Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. 4 Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. 5 Mais Néhémi portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. 6 Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est stérile abattu? 7 Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal à qui? Le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Remarquez, Dieu montra à Caïn que son offrande n'était pas acceptable, mais il lui donna l'occasion de se repentir et de recommencer, mais il refusa. La lecture de la Bible dite des 70, version grecque de la T, dit, « Tu as bien offert mais tu n'as pas bien divisé. » Comme le sacrifice de Caïn était hors saison, il n'était pas acceptable aux yeux de Dieu. Il a bien offert, car c'était l'offrande des prémices de la saison de la moisson, comme illustré dans Deutéronome 26. Vous pouvez lire cela par vous-même, car nous n'avons pas le temps d'aborder cela en ce moment. Maintenant, Jusqu'ici nous avons vu que Caïn et Abel ont offert un sacrifice. Mais Dieu porta un regard favorable au sacrifice d'Abel mais pas à celui de Caïn. Cela parce que le sacrifice de Caïn est hors saison. Mais celui d'Abel se fondait sur la révélation que Dieu en a fait la représentation à ses parents lorsque Dieu a jeté aux pieds d'Adam et d'Ève les peaux d'un agneau innocent. Ainsi, en gros, Abel aurait offert à Dieu ce que Dieu aurait offert pour Adam et Ève. Souvenez-vous, la définition de la révélation Esther est la manifestation de la vérité divine. Et Dieu interprète sa parole en la faisant s'accomplir. Ainsi lorsque Dieu chercha Adam et Ève, et ensuite leur apporta les peaux d'un agneau pour remplacer les feuilles de figuier, c'était Dieu disant, « Voici ce dont je veux que vous vous revêtiez. Un agneau innocent a dû mourir pour votre transgression. » Et donc lorsque Dieu dit quelque chose et puis fait ce qu'il a dit, c'est Esther l'interprétation de sa parole. Et Caïn, au lieu d'accepter la correction, et d'offrir un autre sacrifice selon la parole révélée de Dieu. Il s'est remis à bouder et à se plaindre. Maintenant, remarquez ce qui s'est passé ensuite. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Maintenant, de quoi pensez-vous qu'il parlait qui fit que Caïn devint jaloux et tua son frère? Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua neuf. L'Éternel dit à Caïn, « Où est-ce ton frère Abel ?» Il répondit, « Je n'ai mis ses pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» 17 Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » 11 Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. 12 Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. 13 Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. 14 Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. 15 L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait n'aimait le tue à point. Nous avons dit avant de lire qu'il y avait trois questions que nous voulons poser et auxquelles nous voulons répondre. 1. Qui reçut la marque? Caïn reçut la marque. 2. Pourquoi reçut-il la marque? Parce qu'il choisit de n'aimer pas diviser correctement la parole de vérité comme Dieu lui avait dit. Et Dieu dit, si tu fais bien tu seras accepté. Mais il choisit de n'aimer pas bien faire. Dieu leur avait déjà montré ce qu'il exigeait en jetant aux pieds de leurs parents les peaux d'un agneau innocent. Et Abel reçut cela par révélation et rendit cela à Dieu. Tandis que Caïn offrit son propre sacrifice pour le péché. Et Dieu rejeta cela. Ensuite lorsque Dieu offrit à Caïn de lui montrer la bonne voie, il rejeta cela à nouveau. Et Esther ainsi que Caïn reçut la marque de la bête, et cela nous conduit à la question numéro 3. Quel était le résultat qu'il a reçu cela? 16 Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l'Orient d'Éden. Caïn quitta la présence du Seigneur, la séparation, en Esther le résultat. Il fut séparé de la présence du Seigneur. La première fois qu'on entend parler de la position de la marque, c'est Esther dans le livre de la Genèse. Dieu mit une marque sur Caïn, qui était le fils de la bête, faisant alors de cela, la marque de la bête. Or dans le livre de la Genèse, nous n'y voyons pas où cette marque fut apposée sur le corps de Caïn, mais nous voyons effectivement sa réaction à cette marque. Il sortit de la présence du Seigneur. Or cette marque que nous voyons dans le livre de la Genèse est mentionnée plusieurs fois dans le livre de l'Apocalypse. Alors prenons-les simplement dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans l'Apocalypse. Apocalypse 13.16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libre esclave, reçu sans une marque, dans, selon la version anglaise du roi Jacques. Note du trad. Leur main droite ou dans leur front, 17 et que personne n'ait mis pu acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18 Sester ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car Sester un nombre d'hommes, et son nombre Esther 666. Remarquez que la marque Esther dans le front, les pensées, et dans la main droite qui, dans la Bible, représente toujours la puissance ou les actions. Le sceau de Dieu 20, 14 mai 54 107 les deux marques sont spirituelles. Et, je vais vous le prouver par la Bible. Les deux marques sont des marques spirituelles. 108 Beaucoup de gens se disaient, qu'on ira ça et là faisant des tatouages au front, et faisant des tatouages sur la main. Nous avons vu hier soir que c'était un mensonge. Oui. Oui. C'est faux. Il s'agit d'une marque, spirituelle. C'est vraiment très caché. Et, écoutez, souvent. Maintenant, si la marque de Dieu Esther est une marque spirituelle alors la marque de la bête Esther également une marque spirituelle. Et remarquez, elle Esther dans le front, pas sur le front. Et dans la main droite, pas sur la main droite. Alors tout ce discours parmi les églises confessionnelles sur les puces RFID et sur les tatous, ou les cols-barres sur vos mains n'est-ce qu'une distraction de la vraie chose, qui est-ce déjà dans les pensées et les actions des gens, et ils n'aiment ils le savent même pas. Apocalypse 14.11 Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse 15.2 Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Apocalypse 16.2 Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Apocalypse 19.20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Apocalypse 20.4 Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Le livre de vie de l'agneau dîme 3 juin 56-42 suivez maintenant. Et elle fit que tous, petits et grands, s'estèrent à dire les riches ou les pauvres, esclaves ou libres, mâles ou femelles, hommes ou femmes, enfants ou qui que ce soit. Elle fit que tous, petits et grands, reçus sans une marque sur leur front, et ils sont scellés dans le royaume des ténèbres. Maintenant, il y a deux sceaux qui sont apposés aujourd'hui. Et vous Néhémie savez pas exactement à quel moment. Oh, frère, laissez ceci pénétrer très profondément. Vous Néhémie savez pas à quel moment, vous qui êtes à la frontière aujourd'hui, vous allez prendre votre dernière décision. C'est vrai. Vous Néhémie pouvez pas chanceler pendant très longtemps. Mon esprit Néhémie contestera pas à toujours avec l'homme. Ainsi, vous pouvez trottiner pendant quelque temps, mais, mon esprit Néhémie contestera pas à toujours avec l'homme, qui Esther à la frontière. 43 Remarquez, la marque de la bête, c'est Esther la marque d'une apostasie, le diable, les œuvres du diable. Jésus a-t-il dit, par leur appartenance à l'Église? L'Assemblée répond, non. Tirez-en-de-e par leur théologie? Non. Par leur expérience du séminaire? Non. Vous les reconnaîtrez leurs fruits. Ézéchiel 9.4 L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes, qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Le sceau de Dieu vint, 14 mai 54 254 suivez. Il vit quatre anges debout aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents. Rapidement maintenant. Mon temps est fini. Mais laissez-moi vous faire comprendre ceci, avant de terminer. Regardez, il vit quatre anges. On a vu la fin de l'Église juive. Comment on les a vus venir de la même façon? Venir avec des instruments de destruction? Cette armée-là. 255 maintenant. Suivez. Quel genre de marque l'Église du Saint-Esprit a-t-elle reçue? Comme marque sur leur front? C'était un signe spirituel. Le Saint-Esprit les avait marqués. Esther se vrait. L'Assemblée dit, Amen. NDE, il n'a jamais mis de tatouage sur leur tête. N'Esther se pas? Non. Non. 256 Ils n'étaient pas condamnés par une nation antireligieuse. Ils étaient condamnés par leur propre peuple. Voyez-vous ce que je veux dire? La véritable Église du Dieu vivant sera condamnée par les catholiques et les protestants. En effet, ces derniers s'uniront. Ils se sont déjà unis comme un seul, comme mère et fille. 257 Mais ceci, ici, Néhémie l'était pas. Alors, observez ce qu'il a fait. Il a dit, faites la marque sur leur front. Quel genre de marque était-ce? Je vais vous le lire. Acte 2, tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint bruit, l'ange venant du ciel. La marque de la Bête 13 mai 54-233 maintenant. Voyez-vous ce qu'est-ce la marque de la Bête? C'est-ce la marque de l'apostasie? C'est-ce une personne qui est un, qui se contente de dire, eh bien, je suis membre de l'Église, et je suis tout aussi bon que l'autre. Néhémie, suis-je pas membre de cette Église? Et connaissez-vous l'origine de votre organisation ecclésiastique? Sur laquelle vous, vous reposez? Vous rendez-vous compte? 234 La Bible dit, celui qui adore la bête reçoit sa marque, ou la lettre de son nom, regardez bien là, sur le front ou la main. C'est-à dire la connaissance ou l'œuvre. Ça Néhémie veut pas dire, que vous recevez un gros tatouage sur le visage. Ce n'est pas nécessaire. Il ne s'agit pas de l'extérieur. Il s'agit du côté spirituel. 235 Et regardez-le et voyez ce qu'il connaît de l'Écriture. Écoutez-le et voyez où il va. Si un homme n'a pas cette doctrine, il n'y a pas de lumière en lui, dit la Bible. L'unité d'un seul Dieu dans une seule Église d'hymne 21 décembre 58 et 76 J'ai entendu, des ministres qui se sont levés avec des tableaux, essayant d'expliquer ce qu'est la marque de la bête, par une certaine sorte de tableau. Cela ne nécessite pas un tableau. Les Écritures disent, tous ceux qui n'avaient pas reçu le sceau de Dieu reçurent la marque de la bête. Il y a seulement deux groupes de gens sur la terre. L'un a la marque de Dieu, l'autre a la marque du diable. Et tous ceux qui n'avaient pas reçu la marque de Dieu reçurent la marque du diable. C'est ce que déclarent les Écritures. 77 Ainsi, vous êtes obligés de prendre une décision. Nous voyons donc que la marque dans leur tête Esther le Saint-Esprit pour la vraie vigne et la marque de la bête Esther le rejet du Saint-Esprit dans la fausse vigne. Ce soir je vous montrerai que le sceau du Saint-Esprit est une couronne de justice, ou de juste sagesse. Et nous devons recevoir cela lors de la parousia de Christ. Et nous verrons également que la marque de la bête est le rejet du Saint-Esprit sur la parole de l'heure. Remarquez, au cri de minuit, la Vierge sage a mené l'action d'entrer dans la présence de celui qui est Esther descendu, mais la Vierge folle, celle de courir après ceux qui vendent. C'est Esther ça qui produit la séparation entre les vierges. Les sages sortirent pour voir celui qui était au milieu d'eux, et les folles sortirent pour courir vers ceux qui vendent. C'est Esther là où la séparation des 10 vierges se produit. En effet, les vierges folles étaient dans les ténèbres, ce qui signifie qu'elles étaient sans lumière, sur le message dit Esther ici, sortaient à sa rencontre. Alors elles coururent vers ceux qui vendent. Jéhovah Jireh de Mar 2 août 6086 Éphésiens 4.30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Combien savent cela? La parole de Dieu dit que le sceau de Dieu, c'est Esther le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'alors la marque de la bête? C'est Esther de rejeter le Saint-Esprit. C'est Esther la marque de l'apostasie. Souvenez-vous, autrefois quand la trompette, quand l'année du jubilé venait que la trompette sonnait, chaque esclave avait le droit de s'en aller libre. Mais s'il n'y choisissait pas de s'en aller libre, il était amené au temple, et on prenait un poinçon et on lui perçait l'oreille, et il était marqué pour le reste de ses jours. Et qu'est-ce? À l'oreille, quand Dieu vous appelle à recevoir le Saint-Esprit et que vous le refusez, alors Dieu vous marque à l'oreille de telle sorte que vous n'aimez, désirerez plus jamais essayer de le faire. Voyez-vous? Alors, c'est Esther la marque de l'apostasie. Et l'Esther dit dans la Bible qu'en ces derniers jours, il y aurait deux catégories de gens, les uns auront la marque de Dieu, le sceau de Dieu, les autres auront la marque de la bête. Est-ce juste? Eh bien, ce soir vous portez l'une de ces deux marques. Entendre, reconnaître et agir. Mars 7 juin 6060, elle aboutit à deux grandes choses. En arrivant à la fin de temps, la marque de la bête et le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu. Tout ministre sait que le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est tout à fait exact. Éphésiens 4.30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Oh! Je sais que vous me prenez pour quelqu'un qui se comporte drôlement, mais peut-être que je me sens bien. Oh! Là là! Elle se dirige vers la fin. Maintenant, rappelez-vous ce qu'est la marque de la bête? La marque de la bête, c'est Osu, le charnel qui rejette ce droit d'aînesse. Osu n'a-t-il pas pleuré amèrement, cherchant à rétablir de nouveau ce droit d'aînesse? Mais il n'y avait plus moyen pour la repentance. Lorsque vous rejetez le Saint-Esprit, vous vous scellez en dehors de la miséricorde de Dieu. Amen. Tous les jours de notre vie 22 juin 59 28 vous êtes donc un esclave, vous êtes marqué. Et la Bible dit que dans les derniers jours, il y aurait deux marques. Et toute personne sur la terre devra avoir l'une ou l'autre marque. Vous Néhémie pouvez pas échapper à cela. L'une, c'est Esther la marque de la bête. Et l'autre, c'est Esther le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu, c'est Esther le Saint-Esprit, la voie pourvue par Dieu pour son Église. Éphésiens 4.30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Et rejeter ce Saint-Esprit, c'est prendre sur soi la marque de la bête. Tous ceux qui n'avaient pas reçu la marque de Dieu avaient reçu la marque du diable. Ainsi, vous êtes marqués. Vous êtes marqués soit comme étant esclaves de l'amour de Dieu, soit comme étant esclaves des choses du monde du diable. Mais Jésus dit dans l'évangile de Luc 6.39. Il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Néhémie tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? et Sester dans la même condition que nous voyons l'église du temps de la fin dans Apocalypse au chapitre 3, où on nous dit que les gens du temps de la fin seront nus, misérables et aveugles et n'aimés ne le sauront même pas. Alors vous devez vous poser la question, à quoi bon la lumière si vous êtes aveugle? À quoi bon le cri de minuit si vous n'avez pas de lumière dessus? À quoi bon la présence de celui qui est Esther descendu si vous n'êtes même pas conscient qu'il soit ici? Et donc nous voyons cet état d'aveuglement, au temps de la fin, et de grande obscurité sur les peuples. Dans Luc 6.39 et puis du verset 40 à 49, nous trouvons la condition du peuple au temps de la fin et nous voyons également qu'il y a deux catégories de gens qui entendent le message de l'heure. Luc 6.39 il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? N'aimés tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? C'est une excellente question. Ensuite, quelques versets plus tard, après avoir présenté cette parabole sous forme de question, Jésus poursuit alors que nous reprenons Luc 6 au verset 40 le disciple n'est-ce pas plus que le maître? Mais tout disciple accompli, parfait, sera comme son maître. Ce mot parfait vient d'un mot grec, qui n'aimé signifie pas parfait. Comme si vous avez atteint une sorte de perfection dans votre état, que vous n'aimé faites plus d'erreurs. Mais le mot signifie simplement préparé. Par conséquent, nous devrions lire la déclaration que Jésus a faite. Comme suit, Luc 6.40 le disciple n'est-ce pas plus que le maître, mais tout disciple préparé sera comme son maître. Et pourquoi cela? Parce qu'en effet, ce que le maître vous enseigne compte vraiment. Si vous êtes sous un faux docteur, vous entendrez de faux enseignements, et alors votre pensée sera remplie d'erreurs. Frère Branham dit dans son sermon Israël à Canberra à Sam 28 mars 53-45 Dieu donna la promesse à Abraham, et celui-ci crut la promesse, et cela lui fut imputé à justice, mais il lui donna le signe de la circoncision, comme sceau de la promesse. Alléluia! Vous croyez Dieu? Par la foi? Vous croyez que vous êtes sauvé et l'avez accepté? Et, à n'importe quel moment que vous le faites, Dieu vous donne le Saint-Esprit comme sceau de la promesse qu'il vous a faite. Le Saint-Esprit est un don de Dieu, c'est vrai, qui circoncit le cœur, coupe le surplus de chair, et fait de vous une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Très bien. Vous y êtes. Ce n'est pas quelque chose que vous avez à faire par vous-même, c'est un don de Dieu. Et lorsque vous croyez correctement, Dieu vous le donne. C'est par la foi. Et rappelez-vous que la foi est une révélation, quelque chose que Dieu vous a révélé, et lorsque vous croyez correctement, Dieu vous le donne. C'est par la foi. Ainsi, vous devez la croire correctement et ensuite Dieu vous le donne. Autrement dit, vous n'aimez pouvez pas recevoir le Saint-Esprit sur la base d'une fausse parole. Car les paroles sont des semences, et une fausse parole est une semence portant une fausse vie. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 10.13-17, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors qu'en est-il si vous n'aimez, connaissez pas le nom du Seigneur? Pouvez-vous être sauvé par un autre nom? Non, vous n'aimez le pouvez pas. Sa propre parole le déclare. Acte 4.12 Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Maintenant, revenons à Romains 10.14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler? S'il n'y a personne qui prêche? 15 Et comment y aura-t-il des prédicateurs? S'ils n'y sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. 16 mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il. Seigneur, qui a cru à notre prédication? 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, Martin Luther, dans son commentaire sur le livre des Romains, cite ces versets et dit, même s'ils disent entendre, ils se vantent en vain. À moins qu'ils entendent de vrais prédicateurs, car d'entendre des faux prophètes signifie tout autant que de n'aimer pas entendre. Ils entendent et ils n'entendent pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas, ni Néhémie prêche la vraie parole de Dieu. Il y a quatre déclarations qui se suivent de façon telle que l'une mène à l'autre, mais de sorte que la dernière constitue la fondation sur laquelle les autres reposent. Ainsi, 1. Il est impossible que ceux qui n'aiment sont pas envoyés prêchent. 2. Il est impossible que ceux qui sont sans prédicateurs entendent. 3. Il est impossible que ceux qui n'entendent pas croient. 4. Il est impossible que ceux qui n'aiment croient pas l'invoquent. À ceci, doit être ajouté un cinquième. Il est impossible que soient sauvés ceux qui n'invoquent pas le nom du Seigneur. Ainsi donc, toute la source et l'origine du salut reposent sur ceci, que Dieu envoie quelqu'un. Un vrai ministre de la parole. S'il n'envoie personne, alors ceux qui prêchent faussement, et leur prédication n'espère pas du tout prêcher. En fait, il vaudra mieux qu'ils n'aient mis prêche pas. Et également, ceux qui entendent l'erreur, et il vaudra mieux qu'ils n'entendent pas. Et également, ceux qui croient la fausse doctrine, et il vaudra mieux qu'ils n'invoquent pas. Que de tels prédicateurs n'aient mis prêche pas, que de tels auditeurs n'entendent pas, que de tels croyants n'aient mis croient pas, que de tels adorateurs n'invoquent, n'appellent pas, ils seront condamnés parce qu'ils seront sauvés par le mensonge. Comme nous lisons dans Proverbe 1.28 « Alors ils m'appelleront, et je ne m'y répondrai pas. Ils me chercheront, et ils ne m'y trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science, connaissance, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Alors seuls ceux qui prêchent sans erreur peuvent prêcher avec certitude. Nous savons ce que Paul dit dans Romains 10, et nous savons ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 11, et encore dans l'Épître aux Galates, que s'ils recevaient une mauvaise parole, alors ils recevront un mauvais esprit. Comment pouvons-nous alors penser que quiconque s'assoit sous un faux ministère et qui a une fausse conception du message a le bon esprit, qui estère le Saint-Esprit? Une conception erronée estère une fausse vivification à la vie. La conception signifie vivifier à la vie. Nous savons que Pierre a dit, dans 1 Pierre 1.23 que puisque vous avez été régénérés ou vivifiés ou êtes nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Jésus nous a dit que le semeur a semé une semence qui estère la parole de Dieu. Et cette semence produira une vie d'après la loi de la reproduction, qui déclare, chaque semence doit se reproduire selon sa nature. Donc, de recevoir une mauvaise parole, c'est-à-dire de recevoir une mauvaise semence, et par conséquent, elle doit produire un mauvais esprit ou une mauvaise vie. Comment peut-il en être autrement? Nous Néhémie venons de lire où frère Branham a dit, nous devons avoir le bon enseignement afin de recevoir le baptême du Saint-Esprit, afin de recevoir le sceau de Dieu. Et si vous Néhémie recevez pas le sceau de Dieu, il Néhémie reste qu'un seul sceau et c'est-à-dire le sceau de Satan, qui est-à-dire la marque de la bête. En fait, frère Branham dit, le vol intérieur Psaume 21 janvier 56 20 est bien. C'est-à-dire ce que je trouve dans la plupart des vies des chrétiens. La plupart, je regrette de le dire comme cela, mais c'est vrai. La plupart des gens qui confessent le christianisme semblent passer un temps de dur combat pour tenir ferme. Je pense que cela est dû au manque d'enseignement correct sur la Bible. Une chose comme tenir ferme, ça n'existe pas. Lui a déjà tenu ferme. Tout le principe du christianisme repose sur le repos. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous n'avez pas à vous inquiéter et à vous débattre. Vous vous reposez simplement. C'est tout. Le repos a été donné. Entrez dans la paix. Tout est fini. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a déjà glorifiés. Je cite l'Écriture. Remarquez que Jésus, jusqu'à ce point, dans la parabole de Luc chapitre 6, parle de Néhémie pas suivre aveuglement, parce qu'il se peut que vous suiviez quelqu'un qui est autant aveugle que vous. Puis il nous dit que si votre maître vous a légitimement préparé, alors vous deviendrez comme votre maître. Autrement dit, vous penserez comme lui, et parlerez comme lui, et agirez comme lui. Ça ne veut pas dire que vous devez regarder à la chair, mais nous sommes guidés par une seule chose et c'est à la parole de Dieu. Jésus a dit, le fils Néhémie peut rien faire de lui-même. Il Néhémie fait que ce qu'il veut faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alors le Fils fera, agira, parlera et pensera comme le Père pense, parle et agit. Maintenant, admettons-le, le Saint-Esprit est à l'enseignant. Et si un homme est soumis à l'Esprit de Dieu et s'il est appelé à enseigner cette parole, alors il fera ce que le Père lui montrera de faire, et les gens qui regardent à ce ministère reflèteront le même principe et deviendront d'une certaine manière semblables à ce que le Seigneur était pour les disciples. 40 Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple préparé sera comme son maître. Remarquez, saisissez bien ce que Jésus dit après. Luc 6.41 Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? 42 Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui n'y vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Maintenant, si vous êtes devenu un avec votre maître, comment cherchez-vous à redire de ce maître? À mes yeux, ça n'a pas de sens, mais c'est ce qu'ils ont fait à Moïse. Il les a conduits en tant qu'imitateurs de Christ, et ils ont été ses imitateurs, comme il l'était lui-même de Christ. Pourtant, ils ont voulu le lapider. Et Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et pourtant, ils ont voulu le lapider. Et ce fut la même chose avec William Branham, et je l'ai vu avec Frère Vell, et je l'ai vu avec mon propre ministère. Ainsi, nous voyons Jésus mettre les disciples en garde de Néhémie pas avoir un mauvais objectif. Remarquez la chose suivante que Jésus nous dit. 43 Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. 44 Car chaque arbre se connaît à son fruit. On n'aime cueille pas des figues sur des épines, et l'on n'aime vendange pas des raisins sur des ronces. Et nous savons que dans le message Les oins du temps de la fin, William Branham nous a enseigné que le fruit, c'est à l'enseignement de la saison, ce qu'ils enseignent pour la saison. Autrement dit, le fruit, c'est ce qu'ils enseignent. C'est le fruit du ministère. Et il nous dit que si vous êtes un bon arbre, alors vous, Néhémie, pouvez pas enseigner l'erreur à propos de la parole pour notre saison. Votre enseignement sera juste en plein dans le mille. Car le mot, péché signifie manquer la cible. Mais le mot juste signifie être correctement sage. Et comment pouvez-vous être injuste si vous n'êtes juste dans votre pensée? Car on ne sait que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Or rappelez-vous que le cœur représente la compréhension, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. À la lumière de ce que Jésus dit ici, il dit si votre compréhension est juste vous produirez des choses justes. Ce qui est à la justice, celui qui est juste fait ce qui est juste, et si votre compréhension est mauvaise alors vous produirez des choses mauvaises. Si vous vous souvenez, il y a plusieurs années, j'ai prêché une série sur le jardin de votre pensée et j'ai montré que la pensée est comparable à un jardin. Et dans ce jardin sont plantées beaucoup de semences. Et la semence qui est plantée dans votre pensée sont ces choses qui se manifesteront dans votre vie. Par conséquent, tout ce que vous semez, vous le récolterez sûrement. Et par conséquent, ce dont vous nourrissez votre pensée se manifestera dans votre vie. Maintenant, c'est le temps de la fin et les gens doivent manifester la semence qu'ils sont. Et nous savons que tout ce qui est manifesté par la lumière. Ça. C'est ça Éphésiens 5.13. Alors nous devons donc comprendre que toutes les semences sur la terre doivent arriver à une manifestation de ce qu'elles sont, et la nature de la semence qu'elles sont, se manifestera publiquement une fois que la lumière frappe la semence. Et il y a une semence pour chaque saison. Et Jésus poursuit alors que nous lisons au verset 46 « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ? Seigneur ? Et Néhémie faites-vous pas ce que je dis ? Et comment pouvez-vous vous dire incroyant de ce message si vous Néhémie vivez pas ce message ? Comment pouvez-vous dire que vous croyez au signe si vous n'appliquez pas le signe dans votre vie ? Maintenant, nous allons entrer dans le cœur de cette parabole. Alors que nous reprenons au verset 47, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et le met en pratique. » 48 « Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. » Oh rappelez-vous, un roc représente la révélation. Ainsi cet homme construisit sa maison sur la révélation. Une inondation est venue. Et rappelez-vous, la Bible nous dit que le diable viendra comme un fleuve et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. 49 Mais celui qui entend, et Néhémie met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison était grande. Remarquez que la seule différence entre les deux maisons est que l'un a entendu et a mis en pratique ce qu'il a entendu. Il a entendu, reconnu et a agi sur la parole. Et l'autre a également entendu mais il n'a pas reconnu ce qu'il a entendu. Et par conséquent, il n'a pas mis en pratique ce qu'il a entendu. Ainsi la révélation que l'un avait, c'était de mettre en pratique et la révélation de l'autre, c'était qu'il n'était pas obligé de mettre en pratique. Regardez, qu'est-ce ce qui a sauvé Noé et sa famille, sa croyance en Dieu qu'il allait pleuvoir, ou ses actions qui résultent de sa croyance en Dieu, autrement dit, sa mise en pratique de ce que Dieu l'avait instruit de faire, à savoir, de construire l'arche, c'est ce qui a sauvé sa famille. Nous avons reçu le commandement d'appliquer le signe, et je n'ai mis comprend simplement pas comment les gens peuvent penser que ça signifie simplement de croire cela. Si je vous disais d'appliquer la peinture, vous trouveriez un rouleau ou un pinceau et quelque chose pour ouvrir le bidon si vous avez l'intention de l'appliquer. Et frère Branham dit que nous devons impérativement l'appliquer. Le signe dit 1er septembre 63 M251 remarqué. Il n'est mis s'était pas rassemblé simplement pour parler du message. Il s'était rassemblé pour appliquer le sang, pour appliquer le signe. 252 sesterces, ce que vous devez faire. Pasteur Neuville et vous tous de cette assemblée, les administrateurs, les diacres, vous les frères, il est certain pour nous de mettre de côté toute la folie du monde, de mettre de côté tout le reste. Nous avons vu assez de choses maintenant pour être absolument sûrs. Le signe doit être appliqué. Sans cela, vous périrez absolument. Sesterces, tout ce qu'il y a. 253 O. Néhémie, vous contentez pas de vous réunir, en disant, j'y crois. Mettez-vous dessous, entrez-y. On entend ici de l'interférence radio. -NDE. Comment faire cela? Nous avons été baptisés, dans un esprit, pour former le corps de Jésus-Christ. Que chacun croit de tout son cœur. Voyez-vous? Il n'était pas responsable de quiconque. Néhémie se trouvait pas sous le signe. Nous trouvons cette même parabole dans Matthieu 7.24. Sesterces, pourquoi? Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Maintenant, si nous devons appliquer les symboles de cette parabole, nous devons d'abord savoir ce qu'ils signifient afin de comprendre de quoi il s'agit. Remarquez, il dit la pluie tomberait, et nous savons, selon Deutéronome 32.2, que Dieu a dit ma doctrine tombera comme la pluie. Nous voyons donc ici que la pluie doit venir avant les torrents. Maintenant, nous savons que Satan viendra comme un fleuve, un torrent, mais nous savons également qu'un torrent déluge représente le jugement par la parole. Comme il en fut au jour de Noé, il en sera de même quand le Fils de l'homme sera révélé. Et comme la doctrine commence à se déverser sur la face de la terre, alors le jugement que la doctrine apporte avec elle commence à déchirer chaque maison qui n'est pas fondée sur le roc, qui est la révélation. Vous voyez, les torrents sont les eaux de séparation, et nous savons que les eaux de séparation, c'est la parole de Dieu elle-même. Remarquez que la pluie vient d'abord, puis les torrents qui sont les eaux de séparation, qui emporteraient toute maison, qui n'est pas bâtie sur le roc, qui est la révélation. Et n'importe quelle révélation Néhémie fera pas l'affaire car Christ est ce roc. Et par conséquent, il n'y a qu'une seule foi ou une seule révélation et c'est la révélation de Jésus-Christ. Et de bâtir votre maison sur ce roc, qui est Christ, résistera à toutes les tempêtes qui viendront. Ainsi il dit que les pluies viendront, c'est la doctrine, puis les torrents se lèveront qui sont les eaux de séparation, qui surviendront suite à cette parole. Et ensuite les vents souffleront, ceux qui parlent de tout vent de doctrine, et la tromperie et la ruse par lesquelles ils guettent pour séduire. Et ils frapperont cette maison, et si elle n'est pas fondée sur le roc, la révélation de Jésus-Christ, alors elle n'émidera pas. Si vous venez à l'église juste parce que vous savez que vous le devez, faites attention, la pluie tombe, et la prochaine chose qui arrive ce sont les eaux de séparation. Alors vous saurez sur quoi votre maison fut bâtie. Lorsque vous recevez la révélation de Jésus-Christ, vous serez testé pour voir si vous l'avez ou pas. C'est l'épreuve de votre foi, qui est l'épreuve de votre révélation. 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et Néhémie les met pas en pratique, sera, le même mot flood en anglais, traduit l'idée de torrent, de crue, de fleuve, d'inondation, de déluge, de flot, de flux, d'afflux, etc. Semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27. La pluie est tombée, Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est terre tombée. Et sa ruine a été grande. 28 Après que Jésus achevait ses discours, la foule fut frappée, étonnée, de sa doctrine. 29 Car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Or la Bible version du roi Jacques utilise le mot étonné ici. Mais le mot étonné n'est-ce pas une bonne traduction du mot ekplesso que Jésus utilise ici? Parce qu'il vous donne une mauvaise idée de ce qui se passe. Le mot grec ekplesso signifie rayer, expulser d'un coup, chasser ou écarter, larguer d'un coup, ou éjecter. Autrement dit, il n'aimait voulait pas de sa doctrine. Il voulait l'expulser, le faire partir, car sa doctrine était trop dure à entendre pour eux. Et il n'en voulait pas. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient tous parler du Seigneur et parler de la parole, mais il a dit de leur bouche ils s'approchent mais en réalité leur cœur est éloigné de Dieu. Ésaïe 29.13 Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Et c'est ce que Jésus leur a cité dans Matthieu 15.7 Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, huit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. 9 c'est en vain qu'il m'honore. Or dans son sermon Jéhovah Jireh 5 juillet 62 frère Branham dit, 23 vous voyez, vous Néhémie pouvez pas vous baser sur des émotions. Voyez-vous, la vie que vous menez témoigne de ce que vous êtes. Voyez-vous, vous Néhémie pouvez pas baser le christianisme sur une quelconque sensation, quelle qu'elle soit. C'est une vie. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, non à leur profession, non à ce qu'ils disent. Et Jésus a dit aussi, vous m'approchez des lèvres, mais votre cœur s'est éloigné de moi. C'est à leur profession. Voyez-vous, votre vie en témoigne. Et si un homme dit qu'il croit en Dieu et qu'il renie une parole de cette Bible, ou la change d'une quelconque façon, eh bien, il doit y avoir quelque chose de faux. Luc 6.47 Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. 48 Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. 49 Mais celui qui entend, et n'est mis pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison était grande. Maintenant, laissez-moi lire Luc 21.34-36 dans la Bible NIF. Lisons à partir du verset 34. Soyez prudents, ou vos cœurs seront alourdis par 1. La dissipation 2. L'ivresse et 3. Les inquiétudes de la vie. Et ce jour-là se refermera sur vous de façon inattendue comme un piège. 35. Car cela viendra sur tous ceux qui vivent sur la face de toute la terre. 36 Soyez toujours aux aguets et priez pour que vous puissiez échapper à tout ce qui est sur le point de se produire, et que vous puissiez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Maintenant, arrêtons-nous ici un instant pour voir exactement ce que cela signifie. Il nous a dit de faire attention à trois choses qui pourraient peser et se refermer sur nous comme un piège. Dissipation. Ce qui signifie des dépenses ou consommations inutiles. 3. Laxisme dissolu dans le plaisir sensuel, la débauche. 4. Un amusement, une diversion. Nous sommes donc avertis de faire attention à ne pas être trop empesés par ces choses qui se visent dans notre société aujourd'hui. s'installa Odyssée à toute vitesse. Et puis il a dit, l'ivresse, qui implique une perte de sa capacité à raisonner correctement et d'être résolu dans nos pensées. Et puis les inquiétudes de cette vie, et Jésus nous dit de nous inquiéter de rien. Vous voyez, Dieu n'est pas arrogant. Et il n'aime veut pas que nous soyons extrêmement agressifs pour quoi que ce soit. Il a dit qu'il faut que nous nous reposions dans la présence du Fils pour mûrir. N'aimez pas courir, 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 mais restez dans sa présence jusqu'à ce que nous soyons doux dans notre esprit et mieux dans notre âme. Maintenant, cette écriture nous dit que si nous n'aimons nous concentrons pas sur Christ quand ce jour viendra, nous allons le manquer, comme la Vierge folle. Elle entendit le cri de minuit et sortit mais elle était concentrée sur sa lampe et a manqué sa présence. Alors elle a couru après ceux qui vendaient le signe. Pourtant, ces trois choses sont ce sur quoi le monde entier se concentre et ils l'ont complètement manqué. Remarquez qu'il a dit, si vous êtes pris dans ces choses, ce jour se refermera sur vous de façon inattendue comme un piège. 35 Car il viendra sur tous ceux qui vivent sur la face de toute la terre. 36 Soyez toujours aux aguets et priez pour que vous puissiez échapper à tout ce qui est sur le point d'arriver, et que vous puissiez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Or frère Branham dit dans questions et réponses d'hymne 28 juin 59 et 126 la marque de la bête Esther en train d'agir aujourd'hui, et le sceau de Dieu, c'est Esther le Saint-Esprit. Le rejeté, c'est Esther la marque de la bête. Quiconque voit le Saint-Esprit et n'aime le reçoit pas alors qu'il était censé le recevoir, reçoit automatiquement la marque de la bête. Car il n'existe que deux catégories. Tous ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu avaient la marque de la bête. Donc, recevoir le sceau de Dieu, c'est à recevoir le Saint-Esprit. Le rejeter, c'est à recevoir la marque de la bête. Voilà tout. C'est à l'exacte vérité. Entendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu d'hymne, 21 février 6546 et Jésus prédit que ce Saint-Esprit sera dans les derniers jours le sceau de Dieu. Maintenant, qu'est-ce ce qui sera la marque de la bête? Ça sera de rejeter le sceau de Dieu. Car tous ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu avaient reçu la marque de la bête. Et si ce sont deux marques spirituelles, l'une d'elles sera la véritable marque de Dieu, et l'autre sera l'apostasie. Pouvez-vous voir cela? Les dix vierges dîment 11 décembre 60 M 319 O. Je l'aime vraiment. Pas vous? Certainement. Oh! Le. Qu'est-ce que le? Qu'est-ce que le sceau de Dieu? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la marque de la bête? C'est-ce le rejeter. Voilà les deux. L'un. C'est-ce voir. Et. 320 Eh bien. On est-ce. Combien y en eut-il sur la terre, qui n'aimit la reçurent pas? Tous ceux qui n'aimit furent pas scellés, reçurent la marque de la bête. Tous ceux qui n'avaient pas l'esprit de Dieu, reçurent la marque de la bête. Le sceau de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est la Bible qui le dit. Chaque passage de l'Écriture en parle et dit que c'est la marque de Dieu, le sceau de Dieu. Et tous ceux qui n'aimaient l'avaient pas, ce sont ceux qui l'avaient rejeté. Et comment l'avaient-ils rejeté? En refusant de l'entendre. Est-ce ce vrai? Maintenant, arrêtons-nous ici un instant et réfléchissons un peu à cette main de la foi. Maintenant pourquoi a-t-il dit la main? Qu'y a-t-il dans la main qui convient si bien à cette foi dont il parle? Que représente la main de toute façon? Lorsque vous recevez la marque de Dieu, où est-ce ce que vous êtes marqué? Dans la main droite et dans le front? N'est-ce pas? Et c'est-ce la même chose avec la marque de la bête? N'est-ce pas? Donc d'avoir la foi juste dans le front Néhémie montre pas encore une vraie croyance et confiance. mais dont la main droite Esther insigne que les actions témoignent de ce qui est révélé dans la pensée, qui Esther le sein de l'âme. Et avant que cela Néhémie puisse entrer dans la main, il doit d'abord descendre de la tête dans le cœur puis entrer dans la main. N'est-ce ce pas? Entendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu d'Im, 21 février 6033. Premièrement, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend de la parole de Dieu. Ensuite, le croyant, ayant entendu cela, reconnaît cela et agit sur cela. L'homme charnel entendra cela, le son de cela, mais jamais. Entendre veut dire comprendre cela. Regarder, c'est Esther regarder quelque chose, mais voir cela, c'est Esther le comprendre. Si un homme Néhémie naît de nouveau, il Néhémie peut voir ou comprendre le royaume de Dieu. Il Néhémie peut le comprendre. La reine de Saba, 19 janvier 61-59, il savait que Dieu était capable de garder ce qu'il avait accompli. Et nous sommes censés être les enfants d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham si nous avons la foi d'Abraham. Tout le reste en dehors de la parole de Dieu est un mensonge. 60. Regardez à ce que Dieu a dit. Nous regardons à l'invisible. Vous regardez à ce que vos yeux mortels Néhémie voient pas. Vous Néhémie voyez pas avec vos yeux de toute manière. Vous Néhémie faites que regarder avec vos yeux. Vous voyez avec votre cœur. Vous regardez bien la chose. Vous dites, je Néhémie vois pas ça. Vous voulez dire que vous Néhémie le comprenez pas. Le fait que vous voyez, c'est cette compréhension. Vous comprenez donc avec votre cœur. La marque de la bête, 27 février 61-73. Mais si vous entendez la trompette, voyez, entendre, la foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Eh bien, non pas juste entendre avec vos oreilles, mais si vous entendez, ça veut dire que vous comprenez cela, vous acceptez cela. Je vous entends. Je crois cela. Voyez-vous? Il s'agit d'entendre. Étienne a dit, vous hommes aux coups raides, incirconcis de cœur et d'oreille. Voyez? Incirconcis. Ils pouvaient entendre cela avec leurs oreilles, mais étant incirconcis, ils Néhémie pouvaient pas croire cela. Voyez-vous? Incirconcis de cœur et d'oreille. Comprendre cela. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle. Février 2022. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.